Jupiter, c'est encore meilleur en direct, du lundi au vendredi à 17h sur France Inter.
Allez, c'est parti.
Ah, c'est drôle.
Hello les petits amis.
Salut Juliette.
Alex va être deg. Le jour où je le remplace, bam, l'invité c'est ma vie, Bernard Lecoq.
Ah, attention les filles, le coq entre dans
la... Stop. Tu n'y penses même pas.
Pas de jeu de mots.
Non mais c'est dommage parce qu'il s'appelle...
Pop.
Ouais. Bon Juliette, moi aussi j'adore Bernard Lecoq, hein. C'est un petit peu notre Madeleine, hein. Antoine Beaumont dans Une Famille Formidable, quoi.
Mais grave, le meilleur père au monde.
Le mari d'Annie Dupéret, quoi.
Le meilleur mari au monde.
Ah bon, parce que moi je croyais que le coq c'était le mari de la poule.
Oh. Guillaume.
Oui.
Deuxième sommation.
Pardon.
Ouais.
Elle va tomber dans le poignet. Hein.
Voilà. Bernard Lecoq, c'est un petit peu le cousin, le frère, l'oncle bienveillant.
Mais oui,
vois.
Mais bien sûr, on le regarde dimanche soir à la télé, dans la cheminée, sous le plaid.
Oh, oui. Comme un coq en pâte.
Guillaume.
Pardon.
Si tu refais un seul jeu de mots, je t'enfonce la guitare de Frédéric Fromet dans le fondement.
Parce que mon fondement, c'est du poulet.
Dis.
Pardon.
Je te force à boire toute la sueur que Raymond Devos a produit sur son front en 30 ans de scène.
Mais tu sais, Juliette. Ah, il a fait énormément de choses, Lecoq. Il a tourné avec Lelouch, avec Sauté, avec Tavernier.
Piala, parce qu'en plus d'être notre papa à tous, eh ben, c'est une Rolls d'acteur.
Tellement, César du meilleur second rôle pour se souvenir des belles choses.
Oui, avec lui, c'est vrai. On se souvient bien des belles choses.
C'est le père de famille français rêvé.
Ah ben là, j'ai envie de dire Cocorico. Aïe.
Juliette, il est un peu fort quand même.
Bah ouais, jurisprudence Castaner. Quand t'as prévenu 3 fois, t'as le permis de tuer.
Bonjour la France Inter et bienvenue dans la Start-up Émission, cet espace où l'actualité descend dans la rue pour la défense de la blague publique. Et en effet, les Français qui sont en ce moment dans la rue défendent les services publics. Les autres les trouvent indispensables, mais critiquent leur coût ou leur efficacité. Pendant ce temps, les maternités ferment une à une.
Toi, t'es fonctionnaire.
Oui, alors.
Quand on a un site, on a la sécurité de l'emploi, non?
Oui. Et alors, prof, pas un site, excuse-moi.
Attends, il a peut-être la sécurité de l'emploi, mais il peut pas s'acheter une Mercedes, lui.
Le cinéma français fait ceinture. Un long métrage coûte aujourd'hui en moyenne 1 million de moins qu'hier. Et le succès du film à petit budget L'amour flou de Roman Boringer et Philippe Rebaud est en fait le film le plus rentable de 2018, juste devant Les Tuches 3.
C'est pas la peine de faire la gueule, hein, vous êtes bien battus. Moi, je suis fier de vous. Vous pouvez aller dormir tranquille. Vous êtes pas des petits pédés.
NTM vient d'annoncer ce qui devrait être sa dernière tournée. 14 dates pour enthousiasmer un public multigénérationnel avec une question toutefois. Peut-on encore faire du rap à 50 ans?
Nous n'avons pas castré Alex. Ah non, il y a un son.
Oui. Oh, j'ai passé l'âge de ces plaisanteries. Qu'est-ce que tu portes comme arme? Un Smith & Wesson. Ça, c'est la marque préférée des papis.
Ouais, je suis pas encore bien calée.
Ouais, il y a toujours, vous verrez dans l'émission, en fait, il y a toujours la présentation et après, on a un son. Depuis 4 ans et demi, on fait ça, mais c'est vrai que c'est
oui,
un peu.
Oui, parce qu'Alex est parti vers un horizon bordelais. Aujourd'hui, c'est donc Juliette Arnaud et qui a choisi le son, qui a choisi le sujet. Voilà pourquoi je suis un petit peu perturbée. Et qui a composé une belle équipe aujourd'hui.
Ah oui, une belle équipe et en l'honneur du maire du Havre, une belle équipe de fétichistes. Tout d'abord, Constance. Qui me fait penser à San Antonio quand il dit « C'est à la culotte des filles qu'on juge un pays. Plus j'observe Constance, plus je me dis qu'on vit dans un bien joli pays. » Constance, de quoi est-ce qu'on cause?
Moi, tout simplement, aujourd'hui, je vais sauver le monde.
Oh, bien.
Voilà,
bien.
C'est tout à l'heure.
Ensuite, nous aurons Guillaume qui, oui. Sous ses prétentions féministes, ne se gêne pas pour dégainer à tour de bras ce symbole hautement phallique qu'il appelle micro.
Ah, c'est pas faux. Bonjour à tous. Eh ben, je vais vous parler clitoris aujourd'hui, figurez-vous.
Mais c'est mortel.
Mais oui, il y a une pétition qui tourne pour qu'il soit présent dans tous les manuels scolaires. Et j'ai demandé aux gens s'ils s'y connaissaient en clitoris.
Moi, j'aurais pas posé cette question-là. J'aurais dit, est-ce que vous mettez le nez dans le clitoris?
Voilà, c'est pour ça que c'est moi qui pose des questions, en fait. Je préfère. Voilà.
Et enfin, Thomas Croisière. Qui tire la bourre au capitaine Haddock avec sa casquette de marin et le surclasse puisqu'il paraît qu'il ne l'ôte en aucune circonstance, y compris celles horizontales.
Oh.
Dites Thomas.
Sauf quand je m'occupe d'un clitoris, nous en reparlons tout à l'heure.
Non, on en parlera peut-être plus en détail.
Et moi je vais vous parler du film de notre invité.
Yes. Et oui.
Qui même me suit.
Oui, celui qui va donner le coup d'envoi de cette émission, vous êtes, je vous laisse nous l'annoncer, vous êtes...
Je ne me rappelle plus, je suis une personne d'un certain âge. Ah si, ça me revient, Bernard Lecoq, comme vous avez dit tout à l'heure.
C'est lui.
France Inter, Charline Vanhoenacker.
par Jupiter.
Il est encore dans son personnage de Chirac, mais on va le retrouver tout de suite.
C'est malheureux de voir ça, vous savez, mes pauvres enfants.
Bernard Lecoq. Dans ce film donc, qui sort en salle demain, qui s'appelle « Qui m'aime me suive », film de José Alcala. Vous partagez l'affiche avec Daniel Auteuil, Catherine Fro notamment, aussi Solame de Jean Lacréole. C'est un sujet très français, car c'est un triangle amoureux, mais chez des sexagénaires, ruraux, des babes, dans le sud de la France, il y a Daniel Auteuil, Catherine Fro plutôt qu'un cas, et vous,
enfant, oui.
Vos personnages ont toujours vécu dans le même village, ils sont amis, ils n'ont pas bougé, ils n'ont pas de blé, mais c'est pas le blé qui les fait rêver, déjà eux ils ont la mer. Et ça les fait rêver, c'est la liberté, voilà, c'est ça qui les fait rêver, c'est la liberté. Et votre personnage et celui de Catherine Fro, ils se rejoignent parce qu'ils ont gardé, les idéaux de leurs 20 ans. Ils essayent aussi de renouer au plus près avec. Est-ce qu'ils vont réussir à entraîner le personnage de Daniel Auteuil dans cette aspiration à retrouver cette liberté? C'est la question. Un triangle entre sexagénaires, donc. Le film s'ouvre. Bernard Lecoq, vous êtes au pieu, à poil, avec Catherine Fro. Et donc, cette première question...
C'est très pudique, mes enfants.
Oui, oui. Alors, non, non. Tout est suggéré.
Sauf qu'elle est, ouais, magnifique. Hein. Ouais. J'ai pas de bol, je ne l'ai vue que de dos. J'ai découvert son corps admirable en voyant la projection.
Il y avait une certaine pudeur, oui.
Très joli contre-jour.
Oh oui, c'est vrai. Oui, elle est magnifique, oui.
Scène inaugurale du film, une scène d'amour suggérée. En tout cas, le cinéma français aujourd'hui, il est donc capable d'offrir des rôles avec scène d'amour à voilà, des acteurs qui ont 60 ans.
Qu'ont passé l'âge.
Non, pas du tout, il n'y a pas d'âge. Ah, non, il n'y a pas d'âge pour être acteur.
Mais justement. C'est mieux, c'est vrai.
Non, mais c'est ce qui...
Non, mais c'est vrai que c'est tout à fait délicieux, cette affaire-là, parce que ça raconte des gens qui sont quand même restés avec des émotions de jeunes gens, quoi, et avec des idéaux aussi de jeunes gens. Alors, ils ont un peu mis un pied à terre, ils sont un peu fatigués, ils ont pris les coups sur la tête, ils ont fait tout un tas de choses comme ça.
Ils sont marqués par la vie.
Marqués un peu par la vie, mais il y a quand même cet enthousiasme, mais il y a quand même du désir toujours, et puis la folie créatrice malgré tout, et puis l'amour et l'amitié. Enfin, c'est ça qui nous colle tous un peu ensemble et qui fait que ce trio fonctionne malgré le fait que ce sont des amis, et il y a un ami qui trahit son pote, et puis il y a une dame qui trahit son mari. C'est quand même un peu le foutoir.
Et ils habitent en face.
Et ils habitent en face des autres, mais ils s'aiment beaucoup quand même.
Oui, et alors vous jouez donc le séducteur, pardon. Hein.
Le mot est un peu fort, mais
bah, le coucou, en tout cas,
j'ai emballé cette jeune femme quand elle était gamine. Et puis,
en plus, il s'appelle Étienne.
Voilà, il s'appelle Étienne.
Sauf que là, le coucou, déjà, il a un catogan.
Oui.
Et en plus, comme si ça ne suffisait pas, il a des habits fluo de cycliste.
Oui, c'est très très saillant. C'est joli, non? Ça m'a plu, ça. C'est une des choses qui m'a plu.
C'est la question qu'on se posait avec Charline. Ouais. Est-ce que c'est ça qui vous a plu?
J'ai été emballé.
Tout petit moment où vous vous êtes dit, oh, peut-être, je vais toucher au grotesque.
Non, pas du tout. Non, ça met mon corps en valeur. Et ça, c'était essentiel pour moi à mon âge. Je suis très heureux de ça.
Ouais, parce
qu'il y a ce qu'on appelle le cycliste. Enfin, je vais vous passer les détails, mais c'est admirable. Regardez le film attentivement.
Ah oui, oui, bon, on l'a.
Éventuellement.
Effectivement, vous êtes le séducteur, celui qui porte beau dans le film. Parce que le personnage de Daniel Auteuil est plutôt un peu négligé, mal rasé, vieilles fringues.
Oui, il est surtout vraiment un peu cassé, lui. Il s'est renfermé, il n'a plus du tout, lui, d'espoir, plus d'envie. Et c'est le personnage que joue Catherine, Simone, qui va vraiment réveiller tout ça et le réveiller, lui, au point qu'il va falloir qu'il se magne un peu pour essayer de la rattraper, parce qu'elle part en courant.
Votre personnage, d'Étienne, on l'a dit, avec ce catogan, une queue de cheval presque aussi longue que Francis Lalanne, si vous pouvez vous figurer, Bernard Lecoq avec une longue queue de cheval, ses habits un peu fluo, ce côté. Et pourtant, celui qui porte beau, le séducteur, et puis l'idéaliste, celui qui veut renouer avec ses 20 ans, on l'a dit, vous êtes allé chercher qui ou quoi pour composer ce personnage qui est quand même extrêmement particulier et qui vous colle tellement bien dans le film?
Laurent Fignon.
Mais c'est
Mes
vrai.
Enfants, allons.
Mais c'est vrai, mais oui, j'avais pas percuté. Vous aviez vu, vous?
Le biclone,
c'est vraiment
c'est
lui.
Bon. Non, mais tout ça, ça fait aussi partie de tout cet imaginaire. Mais je sais pas, je ne réfléchis pas beaucoup à ces choses. En général, c'est quand même marqué dans le scénario ce qu'on doit faire. Donc, je me dis que à partir de là, on doit bien y arriver.
Mais c'est parce que pour jouer, au moment où il faut jouer le séducteur qui a un catogan et des habits fluo de cycliste, et de jouer le gars qui est
est...
Eh ben, tu mets ton cycliste en ville ton vélo.
C'est aussi simple que ça.
Et tu te coiffes correctement, parce qu'il faut être toujours impeccable, et puis hop, après tu joues, ça va,
et
ça
vous
roule.
Avez essayé ce style dans la vraie vie, ça fonctionne aussi sur les
femmes? Je vais le faire, mais pour faire un catogan comme ça, il faut 7 ans.
D'accord.
Donc j'ai bon espoir que vers... Enfin, je vous dirai pas l'âge, mais c'est pendant un petit moment. Ça devrait rouler, j'ai bon espoir.
Une toute petite question. Dans les interviews multiples qu'on a lues de vous avec Charline, les mots timidité, trac, angoisse reviennent souvent. Or, vous avez tourné avec le grand méchant loup du cinéma français, alias Piala.
On s'est adoré. Non, c'est pas une blague.
Non, mais j'en doute pas.
J'aimais cet homme. Il m'aimait, je crois, beaucoup aussi. Il me prouvait, en tout cas. C'était vraiment quelque chose. C'était un peu tendu pour moi. J'étais, enfin, en effet, un peu... Enfin, on est sous pression, hein, tout de même. Mais enfin, il y avait là un homme qui, évidemment, avait un caractère parfois un peu difficile à cerner, mais qui, en tout cas, avait... Je vais vous dire une chose étrange. Je pense qu'il aimait vraiment les gens et qu'il aimait vraiment les gens simples et qui il racontait magnifiquement ça d'ailleurs. Hein. Mais il racontait aussi ses angoisses, ses éventuelles névroses et toutes ces choses qui nous agitent les uns et les autres souvent. Et donc il y avait entre lui et moi quelque chose qui était assez simple et chaleureux. Quand je l'ai rencontré, je lui ai dit il faut pas me disputer parce que je partais en courant et en pleurant. Mais il m'a dit arrête tes conneries et il ne m'a jamais disputé.
Oh, c'est difficile, j'ai l'impression de se disputer avec Bernard Lecoq.
Non, c'est pas tellement difficile, non. J'ai un caractère de chien, mais comme je suis lâche par ailleurs, donc ça ne se voit pas trop.
Le film s'appelle « Qui m'aime me suive » de José Alcala. Il sort en salle demain avec un magnifique trio, Daniel Auteuil, Catherine Fraud, Bernard Lecoq. Il y a de la bagarre avec Daniel Auteuil et Bernard Lecoq.
Everybody was kung fu fighting. Those kids were fast as lightning. In fact, it was a little bit frightening. But they fought with expert timing. There were funky China men from funky Chinatown. They were chopping them up. They were chopping them.
Ambiancée par Jupiter en compagnie de Bernard Lecoq, en salle demain, qui m'aime me suive, de José Alcala. Pour entourer Bernard Lecoq, Juliette,
Constance,
oui.
Guillaume Meurice,
présent,
et quand même Edouard Thomas Croisière.
C'est moi.
C'est moi.
C'est trop beau. Oui. T'as le bateau qui va avec et tout.
Bien sûr, j'ai une grosse péniche.
Trop merveilleux. Trop merveilleux.
Ouais, alors on va peut-être passer à l'information.
Oui,
je préfère.
Oui. Ça ne me déplaît pas, moi, ces petites choses en petit.
Allons-y.
Un enfant cherche spontanément la tendresse d'un homme ou d'une femme.
Le journal de presque 17h17.
Et tout ça sous la bénédiction du curé. Oh, elle est chouette, l'église.
Et on commence avec les titres.
Le préfet de police de Paris, Michel Delpech, a été écarté.
Ah, c'est dommage, j'aimais bien les chansons.
Non, Delpech, c'est pas le même.
Ah, d'accord. Et il va être remplacé par Michel Genuas.
Bon, enchaînez.
Ok, alors on parlera aussi du débat des idées. Emmanuel Macron a rencontré des intellectuels, dont Michel Drucker.
Non, non, mais non, Bruckner, Pascal Bruckner.
Je comprenais pas. Et Thierry Henry, qu'est-ce qu'il fout là?
Mais non, c'est Thierry, Irène Thierry. Oh là 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 là. Bon, il y aura des brèves ou pas?
Oui, les fameuses brèves d'Alex Vizorek qui portent le même nom que celui qui vend sa dignité chez Ardisson.
Ah bah non, pas, bah non, parce que là c'est le même. C'est le même.
C'est le même. Voilà, c'est pas facile.
Bah non, ça... même. Allez, on commence donc avec l'invitation de 60 intellectuels à l'Élysée qu'Emmanuel Macron a reçu hier soir.
C'est ça, 60 intellectuels et pas Alain Finkielkraut. Et a priori, il le prend plutôt bien.
Un peu le
seum quand même, on sent. Hein,
un petit peu. Ouais. C'est vrai que la rencontre était belle, elle a duré très longtemps, elle s'est même terminée à 2h30 du matin.
Et oui, pile à l'heure de la sortie du Macumba de Christophe Castaner. Belle synchronisation.
D'ailleurs, le ministre de l'Intérieur était dans la matinale de France Inter.
C'est vrai, on écoute sa principale déclaration.
École, non, mais l'heure est oui.
Voilà, alors, il faut nous laisser maintenant, monsieur, on termine sa conso et on rentre.
D'ailleurs, selon Le Parisien aujourd'hui en France, Christophe Castaner se serait fait remonter les bretelles par le président de la République après les violences de samedi dernier.
Un mec de En Marche qui se fait remonter les bretelles devant Macron, ça change. Hein, d'habitude, ils baissent leur froc.
On enchaîne avec donc le licenciement du préfet de Paris, Michel Delpech. Le nouveau préfet de police s'appelle Didier Lallemand.
Lallemand, donc, qui s'occupe du maintien de l'ordre à Paris.
Ouais.
Ça a déjà été tenté, non?
Alors, on enchaîne.
On enchaîne.
Invité sur le plateau de LCI pour un débat sur la pédophilie, l'abbé de la Morandais a donc déclaré, je cite, « Ce sont des enfants qui vont chercher de la tendresse ».
Eh oui, je propose qu'on l'appelle désormais l'abbé de la Morandini.
Pour rester dans le thème, le pape a refusé la démission de Monseigneur Barbarin pour respecter, dit-il, la présomption d'innocence.
Ah, c'est mignon, c'est vraiment un ange, hein, à ceci près que les anges n'ont pas de sexe et qu'ils ne peuvent donc pas
International.
Oui, international. Le président algérien Abdelaziz Bouteflika assure rester président de la République après son mandat.
Jamais vu un légume qui s'accrochait autant depuis mon dernier gratin de courgettes, dis-moi.
Fin de vie toujours. Le député Joachim Sonneforget, qu'on aime beaucoup, ici, cœur sur lui, il s'est lancé dans la musique, figurez-vous. Et comme il sait s'entourer, il a pris Doc Gynéco en featuring. On aime, on vous en parle.
Tremblement de terre courageux. La drogue.
Ouais, la drogue, ouais, bien évidemment, ça se sent un tout petit peu.
Je sens que les gilets jaunes vont demander qu'on leur tire au flashball, mais dans les oreilles.
L'état d'urgence devrait être déclenché, d'autant plus que la France vit toujours dans la crainte d'une nouvelle chanson de Francis Lalanne.
Effectivement, alors on termine avec deux brèves. Héros, il veut faire essayer sa voiture à une amie. Elle lui roule dessus.
Sympa, hein, sympa. On n'avait plus vu une amitié aussi belle depuis celle de François Fillon et Robert Bourgi.
Une dernière?
Oui, ses frites volées par un goéland, le retraité le tue et reçoit une amende. Le fondamentalisme wallon, ça va beaucoup trop loin.
Vous avez un problème avec les wallons?
Non, on enchaîne. Allez, on enchaîne.
Merci Guillaume Meurice. On vous retrouve tout à l'heure.
Oui.
D'ici là, calmez-vous. 17h26 sur France Inter, en compagnie de Bernard Lecoq. Il y a aussi bien sûr Juliette Arnaud, Constance et Thomas Croisier. On va aborder ce premier sujet. Aujourd'hui, c'est la grève, les camarades. Jour de manif pour la défense du service public. Les Français ont un rapport ambigu avec le service public. On est bien placé pour le savoir. Ils y tiennent beaucoup, ils le trouvent très utile, mais ils sont très critiques sur son fonctionnement et sur ses agents. En attendant le service public, il ne faudrait pas qu'il tombe malade.
Suite au manque de moyens et à leur non-rentabilité, 99% des maternités ont été fermées en quelques années au Groland. La dernière se trouve désormais dans notre capitale Grosville, à 500 km des villages les plus reculés, et n'est ouverte qu'une fois par an, du 23 février au 3 mars. C'est dire qu'il faut être prévenant, à savoir faire l'amour au moins 10 mois à l'avance pour aller accoucher durant ces 9 jours ouvrables. Pimproline et Jambion ont bien calculé leur coût. Les premières contractions commencent, ils partent pour la capitale. 458 km, durant lesquels Jean Bion se fait flasher 30 fois, car il a dépassé la limite de vitesse autorisée à 80 km/h.
Ah, pour ça, les services publics, ils fonctionnent. Hein.
Un extrait de Grolande, bien sûr, Carverne, Delépine, Moustique. Un extrait qui s'inspire notamment et certainement même du cas emblématique de la maternité du Blanc qui a fermé. Le comité de défense sera reçu demain par la ministre de la Santé. La maternité du Blanc dans l'Indre, où vous êtes né, Bernard Lecoq.
Oui,
donc, en 2019, Bernard Lecoq, il serait sans doute né dans la bagnole.
Ben oui, ça aurait été épouvantable. Je serais même peut-être pas né. Enfin, vous imaginez un peu la perte que ça aurait été. Et donc, je suis. Non, mais c'est les difficultés qui sont rencontrées là-bas.
Vous êtes engagé pour ça. Hein,
Je me suis engagé, vous savez. Oui, enfin, j'ai vraiment forcément une sympathie très grande pour les gens qui animent toute cette bataille là. Et en effet, on m'a donné à lire des lettres de jeunes femmes comme ça qui étaient effectivement tout à fait touchées par le problème d'une manière très très directe, et j'ai donc lu une petite lettre à Macron. J'espère qu'elle l'a lue. En tout cas, je suis bien heureux d'apprendre cette nouvelle. Oui. Et si ils sont reçus, ça peut-être fera bouger un peu les choses.
Ça fait des mois qu'ils attendent et enfin il y a un rendez-vous.
Tant mieux.
Juliette.
Oui, alors par rapport à ce sondage au Doxa concernant le rapport des Français avec le service public, il y a une chose qui m'a quand je vivais au Maroc, j'entendais souvent les touristes français ou les coopérants dire en gros, c'est vraiment beau le Maroc, c'est dommage, il y a trop d'Arabes. Et ça me fait un peu l'effet des Français avec le service public, vous voyez, qui sont très attachés, mais ils n'aiment pas les
fonctionnaires.
Voilà, il y a trop de fonctionnaires, vous en pensez quoi?
On aime bien qu'on nous rende service, quoi. Mais effectivement, vous savez, là sur ces questions-là, je ne peux pas beaucoup me prononcer parce que j'ai des opinions incroyablement intelligente, mais en général, je les réserve au bistrot, quoi. Vous voyez, je vous assure, c'est con, quoi. Voilà, allons boire des coups. Je vous donnerai mon opinion. Vous allez voir, vous allez être sidéré.
Mais intuitivement, vous avez perçu qu'il y a toujours une certaine ambiguïté.
C'est toujours paradoxal, ces affaires-là. Ouais. Voilà, on demande, on attend des choses, on attend des services, on attend qu'on s'occupe bien de nous, on attend que tout marche bien. Et puis, parallèlement à ça, effectivement, il y a trop de ceci, trop de cela. Oui, voilà à peu près l'état des lieux, si vous voulez. Descendons et donnez-moi une petite bière.
Allez, on ira continuer la conversation. En tout cas, on s'est rendu compte aussi que vous étiez, donc, comme nous tous, attachés à ce qu'il n'y ait pas trop de désertification. Quand
voilà, c'est ça l'idée quand
c'est
même.
Ça, surtout,
ça, c'est quand même une question essentielle.
La question de
la maternité. Autant que c'est un beau pays où il y a pas beaucoup de monde, effectivement, maintenant dans les campagnes. Alors, il y a des endroits merveilleux, il faut continuer à les faire vivre, voilà, de toutes les manières.
Bernard Lecoq est avec nous et c'est mardi, c'est le jour de Constance. Elle fait un petit sourire qui n'est pas radiophonique, mais je vous le fais. Elle fait un sourire avec toutes ses dents.
Ça va plus.
Et puis elle commence.
C'est comme ça que je fais le début. Alors, pour commencer cette chronique, je vais procéder à l'appel. Constance, présente, formidable, tout le monde est là. Quel jour sommes-nous? Nous sommes le 19 mars. Ah oui, c'est la journée mondiale de la volaille. Je suis un peu embêtée parce que j'ai déjà bien changé le monde avec mes chroniques précédentes sur les animaux. Suite à ça, la production de foie gras n'existe plus et les poules en batterie non plus. On a même arrêté de plumer les oiseaux vivants pour fourrer des doudounes. Alors cette journée mondiale n'a plus lieu d'exister puisque les problèmes n'existent plus. Voilà, non, pas la peine de m'admirer si fort, je n'ai fait que mon travail. C'est un bisou sur l'épaule. Et à l'instar d'une travailleuse au bois qui enchaîne les clients, j'enchaînerai pour ma part sur une autre journée mondiale, à savoir la journée du recyclage. Bah pareil, hein, je suis un peu au chômage technique, hein, vu que suite aux différents signaux d'alarme, on a tous réagi, absolument tous, hein, du consommateur à l'industriel. Nous avons été intransigeants sur les déchets, le gouvernement a été incroyablement efficace. Voilà, tous nous consommons désormais des choses recyclables et que nous recyclons. Je suis émue par cette prise de conscience générale, parce que c'est vrai que ça faisait un peu flipper, mais bon, ça va, tout est revenu dans l'ordre. Voilà, donc plus de problèmes de poubelles qui débordent, nous avons d'ailleurs intégralement nettoyer la terre, les océans et même l'espace, parce qu'on en avait envoyé des merdes dans l'espace avant quand on était cons. Mais maintenant, ça va vachement mieux. Ouf, on a changé, soulagé. Bien. Alors, je vais continuer à pourfendre l'injustice avec ma bouche. Et c'est le cas de le dire, puisque demain, c'est la journée internationale de la santé bucco-dentaire. Ah, bah décidément. Je pioche que des sujets totalement réglés. Voilà. Parce qu'avant, avoir des dents bien soignées, bah, il fallait avoir du pognon. Ou le goût du tourisme, hein, pour aller se faire refaire les dents dans les pays de l'Europe de l'Est où l'anesthésie, c'était bah, rien. Puisque au fond d'un hangar, personne t'entend hurler. Et cerise sur le gâteau, ou plutôt devrais-je dire fraise sur le chicot, pour faire des blagues de dentiste. Comme le dentiste, il était aussi mécanicien pour une molaire dévitalisée. Le joint de culasse était offert. Mais heureusement, heureusement, c'était avant, parce que désormais, nous sommes tous égaux devant l'accès à la santé. Les hôpitaux vont mieux. Le système, maintenant, est juste et éthique, grâce à mes chroniques. Voilà, donc je suis hyper contente que tout aille mieux. Quelle joie de me dire que, à grand coup de verve, j'ai réussi à sauver le monde. Ma mission est donc terminée. Je vais pouvoir enfin me consacrer à mes deux passions, élever des licornes et harceler sexuellement Rock voisine. Constance ! Merci, Constance !
C'est Bernard Lecoq est avec nous.
Non mais c'est merveilleux, c'est merveilleux. Enfin, je suis heureux d'entendre toutes ces bonnes nouvelles. Vraiment, ça me fait du bien. On s'est battu, mais mes enfants, vous ne vous rendez pas compte.
Ça va aller
depuis 50
pouces. Il est une très belle femme. Pince une petite secousse. Comme une princesse qui tousse. Je change de carapace. Il est une très belle femme. Anima animus. En moi se cherche le plus. Je suis bien plus que un. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Le yin est dans le yang est dans le yin. Le yang est dans le yin est dans le yang. Oh, oh, mes femmes, au milieu, sois toi-même. Être unique est précieux. Dans la glace, je ne me reconnais pas. Quels sont ses poils qui poussent? Elle est un très bel homme par ses petites secousses. Un garagiste qui tousse, je change de carapace. Elle est un très bel homme, anima animus. En moi se cherche de plus, je suis bien plus que plus. La hyène est dans la.
Il, c'est Bernard Lecoq, mais c'est aussi Daniel Auteuil. Elle, c'est Catherine Fro. C'est dans Qui m'aime me suivent, avec notamment aussi Seule âme de Jean, la créole. Vanessa, Vanessa Paric, Duke Coma, et notamment Anne Benoît, qu'on adore. Et c'était été le professeur de Juliette, j'ai appris.
Oui. Excellente professeur, en plus d'être une
excellente actrice. Elle crève l'écran. Absolument,
Il est 17h35 sur France Inter. Vous écoutez Par Jupiter. Bernard Lecoq est donc avec nous. À venir, Thomas Croisière pour nous parler de Bernard. Et puis à Guillaume.
Oui, alors moi je voulais revenir sur le sujet 3 d'hier, à savoir le clitoris.
Ah, évidemment.
Oui, parce qu'on est passé un petit peu vite dessus et la femme de Thomas Croisière m'a appelé en me disant « Est-ce que vous pourriez quand même insister un peu là-dessus, s'il vous plaît ? Ça m'arrangerait. » Alors allons-y, service public, bien sûr. C'est vrai que le clitoris est assez mal enseigné à l'école, hein, contrairement à d'autres matières. Interro surprise, Bernard Lecoq, bataille de Marignan.
1515.
Ok, date de découverte du clitoris ?
Bah, moi, c'était la semaine dernière.
Voilà, c'est bien ce qu'il semblait. Hein, on se rend compte qu'on connaît beaucoup trop l'agenda de François Ier, hein, et qu'on a peut-être un peu loupé le reste. Alors, la découverte du clitoris date du XVIe siècle. Hein, en tout cas, la reconnaissance par la médecine, ça veut dire qu'on a découvert l'Amérique avant le clitoris. Christophe Colomb a pu organiser une expédition dans la culotte de sa femme. C'était quand même moins compliqué. Et depuis, je vous l'ai dit, c'est très mal enseigné. Alors, Jean-Luc Lahaye voulait intervenir directement dans les lycées. On lui a dit non. Non, pas le juge lui a dit
continent. Donc il y a des pétitions qui circulent pour qu'il soit dans tous les manuels scolaires. Le clitoris, hein, pas Jean-Luc Lahaye. Bref, on a des lacunes. Alors on va faire un petit point là-dessus avec la population française que j'ai rencontrée ce matin. Commençons avec un jeune.
Bah, c'est ce qui est à côté de la bouche.
De la bouche? Mais vous pensez que le clito c'est à côté de la bouche?
Ouais, c'est où qu'il y a la chatte. Je sais pas, un peu plus loin, il y a le point G. Ah, où la femme, où elle kiffe à fond.
Alors, c'est un peu confus, c'est un peu confus. Ça, c'est le problème quand tu prends des cours de gynéco en freelance sur YouPorn. C'est vrai que si tu tombes sur des cours en allemand mal sous-titrés, bon, tu confonds un petit peu tout. Alors, allons voir un homme d'expérience.
C'est une grande languette.
Une grande languette.
Oui, on peut appeler ça comme ça. Hein. C'est une tige comme ça, et qui donne des pulsions, et qui donne des...
Une tige à pulsions.
Qui permet de fantasmer.
Voilà, une tige à pulsion et à fantasme. Voilà. Bon, ça vaut ce que ça vaut. Hein. Pas grand-chose, mais je dirais, il y a une tentative quand même. Hein. L'essentiel, c'est de participer, hein, comme le disait le sexologue Pierre de Coubertin. Alors, c'est peut-être moi aussi qui ne pose pas la bonne question.
Je pense que vous auriez demandé quel goût ça a un clitoris. Ça aurait été peut-être plus intéressant comme question.
Ah, vous diriez quoi?
Ça dépend. Est-ce que le clitoris du matin a le même goût que le clitoris du soir?
D'après vous?
Vaut mieux le lard fumé.
Vaut mieux le lard fumé?
Oui.
Il vaut mieux le lard fumé. Alors là, je ne vais pas me prononcer parce que je suis végétarien. Ah, donc là, j'ai plus les références. En tout cas, il a l'air de s'y connaître. Mais j'ai trouvé mieux.
Ah, moi, j'adore ça, moi.
Tout ce qui est clitoris, vous aimez?
Ah, oui, oui.
Quelle note vous mettriez en clitoris?
Note sur quoi, par exemple?
Sur 10.
Sur 10?
Ouais.
10 sur 10.
Ah, ouais, à ce point-là?
Ah, ouais, spécialiste.
C'est-à-dire
d'ailleurs, si un jour j'ai le temps, je fais un livre. Femme clitoridienne ou non?
Ah oui, carrément. Donc carrément. Vous êtes vraiment fortiche, quoi.
Je suis chaud, ouais, non, je suis chaud.
Combien de terminaisons nerveuses au clitoris?
C'est presque une dizaine, non?
Une dizaine?
Ouais.
8000.
Oh putain.
Ouais, il y a du taf. Il y a encore un peu de taf. Il était effrayé. Oh putain. Là, il y a du boulot. Bah, il n'a pas commencé la rédaction du bouquin, donc il a un peu le temps de se renseigner. On a un espoir. On est là pour apprendre avec des analogies, comme celle que j'ai beaucoup aimée de ce monsieur qui est favorable à l'enseignement du clitoris à l'école.
Si on a envie d'avoir un peu de culture, tout est possible. C'est surtout que la motivation que l'on a. Moi, je sais que je joue au Scrabble depuis des années. J'ai côtoyé des gens de très haute qualité. Ça m'a beaucoup aidé.
Il faut pratiquer aussi, finalement, c'est comme le Scrabble.
Oui, très certainement, mais peut-être pas tout seul. Là.
Oui, alors l'analogie clitoris-Scrabble s'arrête là, hein, parce que moi je joue au Scrabble avec ma mère, par exemple, donc ça commence à devenir gênant. Et puis on peut pratiquer le clitoris tout seul, enfin on peut même placer clitoris, mot compte triple au Scrabble. Enfin vous démerdez, hein, faites ce que vous voulez avec les clitoris. Alors je ne pouvais pas non plus faire une chronique là-dessus sans laisser la parole à une femme. Une femme qui pense quoi de l'apprentissage du clitoris?
Contre.
Pourquoi?
Parce qu'il y a peut-être d'autres choses à apprendre aux enfants que le clitoris. Je veux dire, il le découvrira bien assez tôt. Voilà.
Mais même...
Donc, l'éducation sexuelle, oui.
Ah oui, mais ça peut faire partie, ouais.
Ah bah oui, mais bon, alors la bistouquette aussi, donc non.
Mais la bistouquette, c'est déjà pas mal enseigné quand même.
Oui, mais enfin, oui, mais bon, bah, la bistouquette, mais pourquoi le clitoris?
Donc la bistouquette, oui, mais le clitoris, non.
Oui, parce que le clitoris, c'est trop précis.
Oui, c'est trop précis, le clitoris, c'est le problème. Alors, il y a des bistouquettes assez précises aussi, mais je ne vais pas aller sur ce terrain-là. On n'est pas sur C8, hein, Saint Jean-Marie Bigard, priez pour nous. Mais c'est vrai qu'il y a un problème d'éducation. Alors, l'éducation religieuse s'occupe pas mal de bistouquettes, des garçons notamment, avec des profs de bio, l'équipe du professeur Barbarin, qu'on peut saluer ici. Mais bon, il y a quelques loupés, c'est pas top. Hein, donc, je propose de conclure avec cette dame, toujours.
Est-ce que les garçons, ils ont vraiment besoin de savoir comment fonctionne le clitoris de la fille?
C'est peut-être pas mal que les garçons, ils sachent aussi, non?
Je pense pas.
Ah bon?
Parce que, non, parce que je pense que pour les garçons, quand ils vont étudier le clitoris, pour eux, ça va être sexuel. Ça va être
clitoris,
plutôt
c'est plutôt sexuel, non?
Non, ils vont vouloir l'appliquer tout de suite.
Ah oui, alors voilà, oui, ils vont vouloir l'appliquer tout de suite. Mais alors, je dirais, ça devrait servir à ça, l'éducation, à savoir qu'est-ce qu'un clitoris, donc d'accord pour tout le monde, et aux garçons que c'est pas un truc à disposition, que pour les travaux pratiques, il faut l'accord de la propriétaire du clitoris. Hein, je parle sous contrôle, bien évidemment. Alors, c'est quelques règles de base pour vivre en société et jouir sans entrave.
Merci, bravo. Guillaume Meurice. Bravo.
C'est trop merveilleux. J'ai attendu jusqu'à la semaine dernière, même si j'avais appris tout ça à l'école. Vous rendez pas compte, ma vie aurait été changée. Ah, j'en ai marre.
Bernard Lecoq, si je vous donne une feuille blanche et un bic, dessiner un clitoris, vous pourriez? Vous savez,
non, parce que je vais trembler, ça me bouleverse.
Dessiner une bistouquette, tout le monde sait faire, il y en a plein sur les murs de nos villes.
C'est la Saint-Exupéry des Fouffes. Ouais. Dessine-moi un clitoris.
Voilà. Pendant ce temps, je vous donne le lancement du deuxième sujet. On vous donnera le résultat. On tâchera de vous décrire.
Il y en a des comme ça. Puis il y en a des comme ça.
Bernard Lecoq, ça date de la semaine dernière.
Oui, mais j'ai tout appris par cœur.
Allez, le deuxième sujet avec vous. Le cinéma français, on aurait fini avec la folie des grandeurs. En 2018, un film coûte en moyenne 4 millions d'euros. C'est 1 million de moins que l'année précédente. Et c'est un film qui a coûté 430 000 boules, qui a été le plus rentable, avec près de 300 000 entrées. C'est L'amour flou de Romane Bourringer et de Philippe Rebaud. Alors, est-ce une bonne nouvelle que le cinéma fasse un peu ceinture ou non?
Le problème, si tu veux, c'est que je ne sais plus quoi faire. Il faut inventer quelque chose, mais je ne sais pas quoi. Car je ne vais pas passer ma vie à amuser les classes moyennes. Par exemple, là, moi j'aimerais faire un film sur la lutte des Indiens canadiens et refuse l'installation d'une plateforme pétrolière sur leur terre. Comment je fais du cinéma avec ça? Voilà, ça c'est ma question. Je vais pas engager Alain Delon puis lui foutre du plume dans le cul pour faire Indien.
C'est Louis Garrel dans Le Redoutable, le film de Michel Hazanavicius. Un article paru aujourd'hui dans Le Parisien, aujourd'hui en France. C'est donc L'amour flou. Je ne sais pas si vous l'avez vu, Bernard Lecoq. Le film le plus rentable, qui toutefois a commencé avec 3 techniciens bénévoles avant d'engager des gens et de finir par tourner. Une bonne nouvelle qui plaide pour le pas de pétrole mais des idées. Ou alors c'est un précédent qui pourrait encourager des producteurs à dire dites donc, vous avez vu, ça cartonne et il y a 3 francs 6 sous, alors vous allez me faire pareil.
Non, mais l'idée, c'est de faire des bons films, de bien raconter des histoires, mais il est certain que plus vous faites des films très chers, plus il faut que ce soit assez condamné au succès. Donc si vous avez des bons commerçants, ils donneront beaucoup de sous, mais ça leur en rapportera un peu plus que ce que ça coûte. L'idée de faire des films moins chers, mais très très sentis, je dirais, où les gens s'investissent personnellement à un meilleur degré artistique, je dirais, et pas cher, ça peut effectivement être beaucoup plus à la fois rentable et puis donner à tous... ça s'est fait depuis toujours malgré tout. Et de nos jours, on fait des films comme ça. J'ai participé quelques fois et c'est toujours merveilleux de se dire, ce film n'a pas coûté cher. Tout à coup, on fait 300, 400, 500 000 entrées, ce qui sont des scores par rapport évidemment aux grosses machines qui ne sont pas considérables, mais qui pourtant font que la machine va tourner et surtout que le film va être vu et qu'ensuite on va acheter, des DVD, qu'on les verra à la télévision et qui vont avoir une image forte et qui leur permettra d'être vu par un grand nombre. Donc voilà, tout ça, c'est à la fois du commerce et la nécessité pour que le commerce marche bien, d'avoir des artistes, si on peut appeler ça comme ça, nos petits boulots, qui fassent des belles histoires qui plaisent à des gens.
Voilà. Vous qui tournez pour le cinéma et la télévision, il y a le président de la Société des auteurs qui a interviewé dans l'article, qui dit, je le cite, « On critique certains films en disant qu'ils ressemblent à des téléfilms. Mais comment faire quand on a des budgets parfois inférieurs à des fictions télé ?» Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Ce serait quoi un film de cinéma qui ressemblerait à un téléfilm?
C'est des faux problèmes. Après, c'est une affaire de sujet, c'est une affaire de choses de genre. Comment faire effectivement pour que les gens sortent de chez eux pour aller voir des spectacles? Ça, c'est une chose, c'est naturel. C'est compliqué. Quand un film sort, je le vois avec notre film ou des films précédents avec lesquels j'ai tourné, on a 8 jours pour donner une certaine image ou attirer un petit peu comme ça le regard des gens et leur donner envie d'y aller. Alors ça, c'est très compliqué, bien entendu. Je ne sais pas comment il faut faire. Ce que je sais, c'est qu'à la télévision, on fait de bons films. Et qu'au cinéma, parfois, on fait de mauvais films. Et on fait des films sans intérêt. Et à la télévision, il arrive qu'on fasse aussi des films sans intérêt. Mais aussi des choses de très bonne qualité. Des metteurs en scène de cinéma viennent faire des films à la télévision. Et des gens de télévision ont fait des films au cinéma. Enfin, tout ça, c'est des conneries. Ce qu'il faut, c'est raconter des bonnes histoires et essayer, en effet, de tenir ça dans les budgets raisonnables. Qu'est-ce que vous dites? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, mes enfants? Vous m'énervez avec vos questions.
Mais oui.
Merde.
Mais qui même me suivent, par exemple, ça. Donc l'article nous dit c'est 4 millions d'euros, c'est le prix moyen d'un film français en 2018, c'était 5 millions en 2017. Est-ce qu'un film comme Qui m'aime me suive, c'est un film qui a des moyens, mais pas des moyens extravagants?
C'est pas des moyens extravagants, c'est des films qui se font dans des conditions assez modestes, c'est vrai.
Mais qui
ce sont,
quand même,
sont des films, on a beaucoup participé à la réduction de ces affaires-là, tous les uns les autres, et les deux grosses stars avec lesquelles je
Daniel
travaille
Auteuil, ont
été tout à fait généreux aussi de ce point de vue-là, et tout le monde, toutes ces équipes-là, on arrive à faire des films comme ça. Après, ma foi, il y a un enthousiasme qui crée aussi l'envie d'aller sur des films. Et quand ces films sont bons, ce qui est le cas là, les films finissent par se faire, mais c'est pas de la tarte. Un homme comme José Alcala, il fait un film il y a 6 ou 7 ans pour en faire un autre, même dans des conditions relativement comme ça tenues, c'est pas simple. Donc, on est tous quand même condamnés, certes au succès, mais même avant le succès, après avoir fait quelque chose de bon, quoi. On espère ça.
Et où avez-vous tourné? Parce que c'est très, très, très joli, hein.
Eh ben, c'est un endroit qui s'appelle le lac de Salagou. Et qui est un endroit qui est tout à fait merveilleux, à l'ouest de Sète, aux alentours de cette région-là. Et c'est une région absolument splendide. Et y faire du vélo, là, alors les enfants... Il y a des côtes, hein. Il y a des côtes, hein. Non, là.
Vous avez vraiment fait du vélo?
Ah oui, mais sur 100 mètres, 150 mètres, une crise, c'est jamais aussi. Long. C'est des métiers d'escroc, mon enfant.
Avec parfois Catherine Fro derrière en voiture qui klaxonne
pour
vous faire
que ça aille plus vite. C'est une honte.
C'est normal, elle a faim.
Bernard Lecoq, continuons sur le cinéma avec le cinéma de Thomas Croisière, bien sûr.
Par Jupiter présente.
Vive le cinéma !
Le cinéma de Thomas Croisière.
39 jours sans Thomas Croisière, un jour de plus, et j'étais officiellement en quarantaine. Quarantaine que les personnages principaux de Qui m'aime me suivent ont bien tassé. Une histoire de trouble, comprenez couple à trois, servie par une joyeuse troupe. Catherine Fro dans le rôle de la poule entourée de ses deux coqs, Daniel Auteuil, et Bernard, homonyme de l'animal suscité. Ce trouble que je n'ai de cesse de vous proposer, Juliette Arnaud, car oui, Juliette, vous me trouplez. Pardon. Je vais donc vous proposer un top 4 sur un sujet que connaissent bien Charline, Alex et Guillaume, les triangles amoureux. Numéro 4.
À mon avis, c'est beaucoup trop beau pour eux, mais tant pis, on choisit pas sans public.
Tu m'as dit je t'aime, je t'ai dit attends, j'allais dire prends-moi, tu m'as dit va-t'en. Avec cette réplique prologue à Jules et Jim, Jeanne Moreau, qui ressemblait alors à une statue grecque et pas encore au sénateur Palpatine, résume le tourbillon de la vie qui l'emporte avec ses deux amours avant de s'en transformer en maelstrom mortifère. François Truffaut, le réalisateur qui aimait les femmes, lui offre ce rôle emblématique de femme libérée. Tu sais, c'est pas si facile. Et si comme elle, on aime Jules et Jim, une seule personne nous hante, Catherine, cette femme fatale qui me fut fatale. Cette femme fatale qui me fut fatale. Numéro 3.
As-tu déjà aimé pour la beauté du geste? As-tu déjà croqué?
Digne successeur de la nouvelle vague, Christophe Honoré nous fait oublier Jacques Demy en ne faisant pas les choses à moitié dans les chansons d'amour, avec son triangle amoureux qui se transforme en quadrilatère, voire en pentagone. Pour cause de Louis Garrel, j'aurais tellement aimé détester ce film, car n'oublions jamais que la phrase la plus utilisée au monde pour mettre un râteau après « Je préfère qu'on reste amis », n'est-ce pas Juliette ? Et « Je suis amoureuse de Louis Garrel », pensez pour toi Mélanie Klein. Et puis, il y a les chansons d'amour d'Alex Baupin, César de la meilleure musique de film 2008. Alex Baupin que je finirai par écouter en boucle quand mon Tépaz aura usé tous mes vinyles d'Alain Souchon. Numéro 2.
David. Oh là là. César sera toujours César et toi tu seras toujours David qui m'emmène sans m'emporter, qui me tient sans me prendre et qui m'aime sans me vouloir.
La lettre de Romy Schneider dans César et Rosalie, un film que connaît bien Bernard Lecoq puisqu'il y joue le rôle de Michel. Non pas Sardou, hélas, le cinéma français n'a pas encore osé biopiquer notre légendaire Michel alors qu'il a traité des artistes mineurs comme Serge Gainsbourg ou Édith Piaf. Après, il ne faut pas s'étonner si de moins en moins de gens vont au cinéma et les films ne coûtent de moins en moins cher. Bref, César et Rosalie est à regarder en miroir avec Jules et Jim. D'ailleurs, chers auditeurs de France Inter, vous pourriez dès ce soir vous faire une petite soirée théma tranquille chez vous puisqu'ici, c'est l'amour pour la même femme qui crée l'amitié entre César et David. Et si Catherine finit par incarner la mort, Rosalie, elle, est la vie. Elle ne leur donne de l'amour que pour qu'ils aient plus de vie. Claude Sautet raconte comme personne ses histoires d'amour et d'amitié bourgeoise et chaque fois que je me replonge dans sa filmographie, je me dis qu'il n'était vraiment pas une patate, Sautet. Alors, excusez-moi, c'est contractuel, je dois faire au moins un jeu de mots très embarrassant par chronique. Voilà qui est fait. Numéro 1.
Oui, Simone.
Elle ne veut pas te voir. C'est de comprendre, Gilbert.
Vous êtes bien foutu de ma gueule.
Dans Qui m'aime me suivre, Catherine Fro a bien compris que pour avoir un homme qui soit à la fois un bon amant, un bon ami, un bon père et un bon mari, il faut en prendre plusieurs. Vous y incarnez Étienne, un baby boomer à queue de cheval qui aime fumer des pétards en écoutant du Nino Ferrer et qui, s'il pratique le vélo, n'est pas de la pédale pour autant puisqu'il est l'amant de Simone. Simone qui commence à... Simone qui commence à s'ennuyer dans les bras de Daniel Auteuil puisqu'elle ne reconnaît plus Gilbert, le beau jeune homme qu'elle a a aimé il y a 35 ans et qui a maintenant l'haleine d'une cave coopérative. Et pourtant, si vieillir est une fatalité, devenir un vieux con n'est pas obligatoire. Meilleur ami de ce couple, vous en êtes le médiateur, celui qui les sépare pour peut-être mieux les réunir. Car nos héros ont beau être un peu usés par la vie avec leurs petits problèmes et leurs petites retraites, ils ont toujours 17 ans dans leur tête. Et comme chacun sait, on n'est pas sérieux quand on a 17 ans. Dans Qui m'aime me suive, on s'engueule, on festoie, on baise, on se traite de connard et d'enculé, on se marre et on tâte du sein lourd. Ce trio magique, ce triangle d'or, aurait dit Herbert Léonard, nous livre un message plein d'espoir qui remonte le moral des troupes. Même vieux, on peut rester de jeunes cons. Et puis, de toutes les façons, la vie est bien trop courte pour la passer à regretter toutes les conneries qu'on n'aura pas osé faire. Alors Juliette, aimons-nous vivants, n'attendons pas que la mort nous trouve du talent.
Magnifique.
Et là, ils s'embrassent, hein, vous ne le voyez pas, chers auditeurs.
Oui, c'est merveilleux ce qui vous arrive. Je suis tellement heureux de tes mains. C'est tellement beau.
Thomas Croisière.
Non, magnifique, merci camarade.
Bravo, merci Thomas. Qui m'aime me suive de José Alcala sort en salle demain, donc. Et Bernard Lecoq est encore avec nous. Pour notre plus grand plaisir, le dernier sujet nous a été suggéré par Juliette.
Oui, on a 30 ans après leur début, NTM dit adieu. Alors, je vous rassure, n'ayez pas peur, personne n'est mort. C'est simplement que ça y est, c'est la dernière tournée. Désormais, on ne les verra plus ensemble, Kool Shen et Joey Starr. Ces deux-là, au terme de la tournée, vont faire autrement, continuer à faire leur autre chose, mais l'un sans l'autre. Et en attendant, on a 14 dates pour voir que l'âge n'a rien à voir avec le rap. La preuve.
Oh, mais ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Oui, ils m'ont mis la fièvre pendant des heures. Parle pour toi, Neuché, car pour moi ce fut terrible. J'ai passé la journée avec une meuf terrible.
Qui est-ce?
Eh bien, c'était Didier Chelou dans à Radio Nova. Alors, voilà, je mourrais d'envie de vous poser cette question. Dites, Bernard Lecoq, NTM, ça vous évoque quoi?
Ben c'est merveilleux. Je pense que Joey, maintenant, il va peut-être faire comme Elvis Presley. Il va chanter des chansons d'amour et des choses comme ça.
Oui,
c'est probable.
Ah, bonne idée.
Non, mais parce qu'il est d'abord, c'est un bon gars et tout ça. Il est sentimental et il a une jolie voix. C'est possible.
Et là, on ferait le contraire. Il chanterait Ne me quitte pas.
Mais oui. Non, mais c'est possible, oui.
Ah, ok.
Quand il tape pas sur des singes et qu'il insulte pas les hôtesses de l'air, il est quand même plutôt sympathique.
Il a un bon fond.
Oui, il a un bon fond.
Tu arrêtes maintenant.
Oui, voilà. C'est pas moi. Attention, c'est l'invité qui te le dit. Non, alors, plus sérieusement, j'ai pensé à vous, Bernard, en lisant cette nouvelle, parce que votre personnage et vos personnages, avec Daniel Auteuil et Catherine Fro, ils font exactement ce que font Kool Shen et Joey Starr. C'est-à-dire, ils s'autorisent à changer les règles. Ils n'ont jamais niqué leur maman. Enfin, ça n'a rien à voir. Non, mais les Belges, vous tout leur expliquer, donc.
Ne faites pas ça chez vous.
Poursuivez. Oui, donc vos personnages dans le film qui m'aime aussi s'autorisent à changer les règles et leurs et celles des autres.
Et ça alors, vous fait... c'est bien. Changer les règles, on fait ça. Chaque génération tente de faire ça, et c'est très bien.
Oui,
nous, on a tenté de le faire quand on avait 20 piges. Mollement, à nous, on était acteurs, on pensait qu'à notre gueule et à avoir des jolis rôles. Mais enfin, les jeunes de notre époque, ils essayaient de changer un peu le monde. Aujourd'hui, on essaie encore un petit peu de le changer, en tout cas de l'améliorer, de le transformer. C'est une chose qui me paraît naturelle, et c'est une chose aussi naturelle de tenter de se transformer sans aller au bois de Boulogne, bien entendu. Quoi.
Bien sûr, non, mais continuer aussi.
Enfin, on peut y aller aussi. Pour tout.
Oui, et continuer d'emmerder les huissiers et les gendarmes comme vos personnages le font.
Oui, mais c'est une manière gentille aussi c'est de traiter un peu la maréchaussée à la Brassens, quoi. Hein, là, en l'occurrence, c'est cette façon-là d'avoir un peu de respect quand même pour les gens qui font un travail pas un peu difficile. Permettez-moi, je suis une personne âgée. Hein, j'ai mon idée, j'ai mon opinion. Rendez-vous au bistrot.
C'est l'habitude du Fouquet, ce sort de...
Mais oui,
voilà, bien sûr, il y a de l'empathie.
Non, mais ce sont des choses, bien sûr, qu'il est nécessaire de laisser aussi s'épanouir, vivre. Puis après, si les idées sont bonnes, ma foi, le monde change un peu dans le bon sens. Puis si elles ne sont pas bonnes, ça s'écroule. Ça arrive partout, malheureusement. C'est possible.
Oui, c'est l'histoire d'un trio amoureux aussi qui a, comme en quête de liberté, essaye de tout changer.
À l'époque, probablement, quand ils avaient 20 piges, pige et elle était beaucoup plus jeune. Mais enfin, ils avaient ce désir-là de changement et tout ça. Mais ils se sont un petit peu réduits, je dirais. C'est plus facile de changer, de tenter de changer un monde un peu réduit, un petit village, un endroit comme ça un peu coupé du monde. Puis après, bah, avec les illusions, il reste quelque chose de fort et puissant. Curieusement, l'amitié, parce que malgré un peu les coups de canif, il y a ça, et l'amour. Et le désir, en même temps, de vivre encore et de...
Et puis un peu de vin, du fromage et un laïeul.
Ah, bah, ces affaires-là, oui. Ça, c'est nécessaire. Un bout de pain, il faut quand même un bout de brignolet. C'est important.
Bernard Lecoq, on va vous proposer quelque chose, normalement, tout à fait dans vos cordes.
Oui, on voulait vous tester en tant que comédien, parce qu'on a quelques doutes là-dessus. Donc, tous les jours, à la fin de l'émission, on propose un sketch à l'invité. Et là, vous allez voir, on vous a préparé un beau sketch, parce que Bouteflika a confirmé dans une lettre envoyée aux Algériens qu'il restera président. Il est au pouvoir depuis les années 90 et c'est un peu comme si Jacques Chirac était encore président aujourd'hui.
Sur une idée de Thomas Legrand, je le préciser.
Ah oui, exact. On imaginait ce que Jacques Chirac écrirait aux Français aujourd'hui s'il était président. Et comme vous l'avez interprété deux fois, on s'est dit jamais 203.
Oui, mais j'ai pas de mémoire. Alors
justement, c'est pour ça qu'on va écrire le texte. On va voir. Alors, Charline, vous êtes Claude Chirac et moi, oui, je serai Jean-Louis Debré. C'est parti. Aïe. Allez-y, Jacques, on vous écoute.
Chers Français, chères Françaises.
Ah, ça, c'est magnifique, ça, Jacques, hein, allez-y. Hein.
N'en fais pas trop non plus, Bernard. Cela fait maintenant 24 ans que Juppé a entamé le dialogue avec des cheminots.
Alors, qu'est-ce qu'ils sont ridicules à parader avec leurs gilets jaunes, là ?
J'ai du pif, et je peux te dire que ça. Ça ne marchera jamais.
Bon, alors pour leur répondre, tu devrais quand même dire que tu as entendu leurs revendications, papa, quand même.
Ah oui, c'est bien ça. J'ai entendu vos revendications. Françaises, Français, je vous ai compris.
Ah ben non, ça, c'est déjà pris, ça, Jacques. Hein.
Ah bon ? Et par qui ?
Eh ben, De Gaulle.
Oh, bah c'est une période lointaine, ça. C'est vers Chargé-Torix.
Non, De Gaulle, le général, au sujet de l'Algérie, d'ailleurs, je crois.
Oui, bon, en temps normal, je dirais que ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais... j'ai pas envie de finir dans Copy Comics.
Dans quoi ?
Tu vieillis, Jean-Louis. Bon, je comprends votre colère et votre désarroi. La France est comme figée dans le temps.
Voilà, ça c'est très bien, l'empathie, c'est très bien. Ça.
Vous en avez assez de compter vos francs en fin de mois.
Ah, c'est très bien, ça, très bien.
Bah, j'ai travaillé, là, je peux ouvrir une petite Corona.
Oui, enfin, bon, non, on doit continuer un petit peu le boulot, là, Jacques. Allez.
Oh là là, mon Jean-Louis, toi, t'es boulot. Oh là.
Bon, papa, on poursuit, là.
Cela fait maintenant 24 ans que la chanson « Zombie » des Cranberries est en tête du hit parade. C'est insupportable.
Oui, et puis les zombies sont dans ce bureau, je vous rappelle. Hein? Non, mais rien, papa, pardon.
Bon, pour remédier à cette situation insupportable, j'ai décidé de nommer ministre de la Culture Monsieur Johnny Hallyday.
Ah oui.
Quoi encore ?
Eh ben non, parce qu'il nous a quittés.
Eh ben faites-le revenir.
Ah ben je suis pas un nécromancien, Jacques.
Ah bon, eh ben j'ai décidé de nommer ministre de la Culture Monsieur David Hallyday.
Ah ben très bien, très bien. Ah,
c'est pour toutes ces raisons que j'ai décidé de dissoudre l'Assemblée nationale.
Alors, vous êtes sûr de ça, là, Jacques ?
Évidemment. Mmh. Je ne vois pas comment ça pourrait mal se passer.
Moi, j'ai un mauvais pressentiment, quand même. Hein.
Ce que je veux, ce que vous, partout, vous, c'est que vous, partout, vous alliez le faire gagner. Parce que c'est notre projet.
Aïe.
Vive la République et vive la France.
Mais ça sort d'où, ça, Jacques ?
Tu vieillis, Jean-Louis, tu vieillis.
Merci Bernard Lecoq.
Engagé.
Ce mensage, je l'ai un peu perdu.
Demain, le film « Qui m'aime me suive » de José Alcala avec notamment Daniel Auteuil et Catherine Fro. Merci beaucoup Bernard
Lecoq.
Merci
mes bons amis, vous êtes merveilleux. On va danser les filles.
Allez, on y va, à demain.